Oui, très, très modestement, hein, il s'agira d'une introduction qui tentera de poser une problématique avec laquelle, j'espère, vous aurez envie d'approfondir un certain nombre de choses par la suite. Il est évident que Jean-Claude Lalias m'avait demandé de faire une petite présentation des différents aspects esthétiques variables dans l'approche de l'œuvre de Vinavert à la scène, qui reprendra certains aspects, en les disant autrement, de l'article Somme que j'avais essayé de condenser dans ce numéro de Théâtre Aujourd'hui, le numéro 8, hein, où on m'avait demandé donc d'aborder la question de Vinavert à la scène, qui est une question délicate, et je crois que c'est l'une des raisons de votre réunion d'aujourd'hui. J'avais intitulé Le malentendu, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que on a dit beaucoup de choses exclusives les unes des autres sur l'œuvre de Vinavert, alors que, me semble-t-il, d'abord toutes ces choses y sont réunies en potentialité, en virtualité scénique, et c'est beaucoup plus dans la tension dialectique entre ces options parfois contradictoires que se trouve la vérité de l'œuvre de Vinavert, sa vérité scénique, s'il y en a une et si cette expression a un sens. Alors, tout d'abord, et ensuite, bien sûr, on verra quelques extraits que j'aimerais que nous commentions ensemble, avec vos réactions et vos descriptions, vos esquisses d'analyse. Malheureusement, on ne verra sûrement pas tout ce que j'ai prévu, parce que ça ferait l'objet d'une journée ou une journée et demie de travail au moins. On va essayer d'être là aussi un peu concis. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le Vinavert romancier, très jeune, dans les années 50, est sollicité dans son passage à la scène par un certain nombre de gens qui sont tantôt des animateurs de théâtre, tantôt des metteurs en scène, parfois même des théoriciens, puisque les quatre noms qui s'attachent au passage à la scène de Vinavert dans les années 50 sont ceux de Gabriel Monet, le premier qui lui commande une pièce, Roger Planchon, le premier qui la met en scène, presque simultanément Jean-Marie Serrault, il s'agit bien évidemment d'Aujourd'hui ou les Coréens, et il reçoit tout de suite les encouragements de Roland Barthes. Alors, quelle que soit la différence entre ces quatre hommes de théâtre majeurs des années 50, il va de soi que ce qui les réunit serait une espèce de réflexion commune, même si elle est parfois divergente, sur ce qu'on pourrait appeler une esthétique brechtienne à la française. Puisque aussi bien Planchon que Serrault, et pour une moindre part Barthes et son ami Bernard Dorte, sont considérés comme des passeurs de la pensée et de l'esthétique brechtienne dans la francophonie. C'est un paradoxe pour moi, parce que, encouragé par les metteurs en scène, et des metteurs en scène proches ou issus de l'esthétique brechtienne, Vinavert ne va cesser, surtout à partir des années 70-80, de se méfier finalement de cette sollicitation des origines et de se méfier des gens qui, en quelque sorte, l'ont invité à passer à l'écriture dramatique. Donc le premier malentendu, c'est un malentendu, je dirais, à caractère brechtien. Et ce qui pose le problème aujourd'hui, ce qui a posé le problème à Schiaretti, par exemple, quand il a abordé sa mise en scène des Coréens au Vieux Colombier, dans le cadre de la programmation de la Comédie Française, à se démarquer de cela, hein, à se méfier lui-même de la nature brechtienne d'une telle pièce. Et en même temps, à interroger cela. Deuxième malentendu ou deuxième paradoxe, il se trouve qu'une partie de l'œuvre de Vinaver était close dans une conjoncture, et je pense surtout à ce qu'on a appelé, ce que Jacques Lassalle a appelé son théâtre de chambre, dans une conjoncture où triomphait une notion théorique assez vague, pas très bien définie, mais qui a eu son heure de gloire, qui était le théâtre du quotidien. Et je dirais que le fait que Lassalle ait mis en scène des pièces comme Nina, c'est autre chose, Dissident, il va sans dire, à la renverse, qu'il soit revenu à Vinaver quelques années plus tard avec une pièce comme l'émission de télévision, a contribué à, je dirais, à entretenir le malentendu. On a donc rangé dans les petits livres ou les articles qui s'écrivaient à chaud à l'époque sur le panorama du renouveau, des formes contemporaines, etc. On a donc rangé Vinaver aux côtés de Jean-Paul Benzel, aux côtés de Jacques Lassalle et de Michel Deutsch, par exemple, parmi les écrivains du quotidien, les auteurs dramatiques du quotidien à la française, qui auraient en quelque sorte une dette à payer à leurs grands initiateurs bavarois, Kreutz, Hartenbusch, Fassbinder et Martin Speer. C'est un malentendu que Vinaver a contribué à entretenir lui-même, mais qu'il a voulu par la suite, bien évidemment, également dissiper. C'est pour ça que, beaucoup plus que la notion de quotidien, on trouve chez lui la notion de banalité ou d'ordinaire, qui sont des notions cousines de celles de quotidien, mais qui semblent en quelque sorte opter pour une singularité. Ce qui, il est vrai, chez Vinaver, dans son œuvre, fait écho à ce qu'il appelle les bribes de conversation, ou même, et c'est une expression qu'on rencontrera aussi chez Mignana, le bruit du monde. Et ce qui entretient la confusion, c'est vrai qu'à certains moments, Vinaver confie qu'il travaille certaines de ses pièces à partir d'une documentation réunie sous forme d'articles de journaux, de faits divers. Il a des dossiers chez lui qui sont des collections de collages. Certaines pièces comme l'émission de télévision, bien sûr, Portrait d'une femme, sont redevables de ce travail de documentation puisé dans la presse sous forme de faits divers et de collages. Ce qui a pu entretenir aussi la confusion en ce qui concerne le théâtre du quotidien, c'est que le thème essentiel que très vite les lecteurs contemporains ont dégagé de l'œuvre de Vinaver, c'est bien évidemment le thème de l'entreprise. La vie quotidienne, professionnelle, sociale dans l'entreprise, souvent en relation avec les incidences que cette vie-là peut avoir sur l'intimité familiale. Donc la dialectique de l'intimité familiale et des déterminations sociales a souvent contribué à entretenir le mythe d'un théâtre du quotidien. Ce thème de l'entreprise se trouvant chez lui génialement abordé d'un point de vue poétique à travers la métaphore du jetable, puisque le cadre ou l'employé chez Vinaver, au hasard des restructurations financières, économiques, sont considérés toujours comme des cadres ou des employés Kleenex, la métaphore de la poubelle de la corbeille à papier. On en verra un exemple dans la mise en scène d'Anne-Marie Lazzarini, Les travaux et les jours, donnant en quelque sorte la clé de ce de cette thématique du jetable, qui est une thématique qui rejoint la biographie de l'auteur. Il est bien évident que tout ça a quelque chose à voir avec le rasoir jetable et avec l'expérience Gilène. Alors, banalité, ordinaire, d'autres auteurs, parlant de Vinaver, préfèrent employer d'autres termes, comme théâtre au présent, par exemple, c'est l'expression que, à propos de Vinaver, emploient Jacques Lassalle et Jean-Pierre Sarrazac, à partir de leur commune expérience du studio théâtre de Vitry. Anne Hubersfeld, vous le savez, dans son livre, parle de théâtre du jour présent, et c'est vrai que le premier titre choisi par Vinaver pour sa première pièce s'appelle et aujourd'hui, hein, donc il y a une insistance sur cette notion de présent. Et pourtant, à plusieurs reprises, dans ses écrits théoriques, mais je dirais même dans son œuvre de fiction, Vinaver nous donne les clés de la méfiance à l'égard de cette notion de quotidien, de présent, voire de banalité ou d'ordinaire. Il y a une pièce qui s'appelle L'Ordinaire. Et cette pièce qui s'appelle L'Ordinaire est précisément, probablement par sa fable, la plus extraordinaire de toutes celles que Vinaver a pu écrire. Hein, c'est l'histoire de ce staff, de cet état-major d'une multinationale qui s'écrase au hasard d'un crash aérien sur un sommet de la cordillère des Andes et qui vit là une épreuve de survie tout à fait exceptionnelle puisqu'elle passe par l'anthropophagie et même, je dirais, l'anthropophagie incestueuse à caractère psychanalytique puisque l'une des jeunes filles guérit de tous ces maux en attaquant un bout de la cuisse de son papa. Voilà, donc vous voyez qu'une pièce comme celle-là qui s'appelle L'Ordinaire nous invite à la méfiance par rapport à tout ce qui a pu être dit du rattachement de l'œuvre de Vinaver au quotidien ou à un théâtre de la banalité.